Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission dédiée à l'importance de la sensibilisation à l'écologie dans les écoles d'ingénieurs en France. Aujourd'hui, on se retrouve avec Aïfa, Louise, Anaé et moi-même, Alizé. On va aborder l'aspect écologique qui est ancré dans les écoles d'ingénieurs en abordant plusieurs aspects comme la transition et l'innovation écologique.
Nous allons explorer pourquoi il est crucial que les écoles d'ingénieurs intègrent des programmes de sensibilisation à l'écologie dans leur curriculum. Nous vivons dans une époque où le changement climatique constitue l'un des plus grands défis auxquels l'humanité est confrontée. Les scientifiques du monde entier nous avertissent que nous devons agir rapidement pour réduire notre empreinte écologique et préserver notre planète pour les générations futures. Les écoles d'ingénieurs, en tant que centre d'excellence pour la formation scientifique et technologique, ont un rôle clé à jouer dans cette transition vers une société plus durable. Il semble donc nécessaire que les écoles d'ingénieurs prennent certaines mesures vis-à-vis de cette crise climatique. C'est dans ce dont va nous parler Louise.
En matière d'écologie, on peut se dire que les écoles d'ingénieurs ont un grand rôle à jouer. Leurs connaissances et compétences sont précieuses et peuvent être mises au service de l'environnement. Pour ça, la sensibilisation au sein même des écoles d'ingénieurs est très importante. Alors, on peut se demander ce que les écoles font concrètement pour promouvoir l'écologie et pousser les gens à s'investir dans la cause environnementale. Je vais ici prendre l'exemple de l'UTC, école dans laquelle nous sommes, qui organise un atelier Fresque du climat. La Fresque du climat est une association créée en 2018 pour permettre à n'importe qui, pas seulement les étudiants, d'avoir une première approche simple et claire des enjeux climatiques. De façon ludique, si je puis dire, un groupe de personnes construisent une fresque qui retrace les différents mécanismes du changement climatique, puis en discute pour permettre de libérer la parole sur le sujet et clarifier certains aspects qui peuvent encore paraître sombres. Je voulais vous demander, du coup, les filles, est-ce que vous l'avez faite? Et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé?
Moi, personnellement, je l'ai faite au début de l'année, en septembre.
Ouais, du coup, moi aussi, je l'ai fait en septembre, en même temps que toi.
Et vous avez appris des choses que vous ne connaissiez pas du tout?
En vrai, je pense au niveau de cette crise climatique, on est surtout au courant des conséquences qu'il y a, mais pas forcément du mécanisme au départ. Donc je pense que ça nous a tous un petit peu appris quelques trucs par rapport à ça.
Okay. Moi, honnêtement, je ne l'ai pas fait. Et je pense que pendant mon intégration, elle n'y était pas encore en place.
C'est récent.
Oui, c'est assez récent. Mais par contre, j'ai déjà fait une fresque du climat et je trouve ça vraiment super intéressant. Et c'est vrai que ça introduit à tous les sujets climatiques en nous offrant une bonne base de connaissances.
Ok, très bien. Et donc, en plus de la fresque du climat, chaque nouvel UTC1 qui intègre du coup l'UTC doit obligatoirement suivre une matière appelée IS00 qui nous apporte des connaissances plus précises sur l'environnement ainsi qu'une vision systémique sur le sujet. On peut se dire qu'il s'agit déjà de premières mesures qui orientent les élèves pour qu'ils s'intéressent plus au sujet et qu'ils développent leur pensée critique. Informer les étudiants permet aussi de les responsabiliser et de leur faire comprendre qu'ils ont un rôle à jouer. Justement, il existe l'accord de Grenoble, accord qui a émergé lors de la COP1 étudiante en octobre 2019. Je ne le savais pas du tout, mais grâce à des étudiants, plus de 50 établissements se sont engagés pour inclure l'écologie dans leur programme et rendre leur campus plus vert. Pourtant, si on prend les plus grandes écoles d'ingénieurs, telles que Polytechnique, les Mines ou encore l'UTC, oui, on va dire que j'inclus l'UTC dans les plus grandes écoles d'ingénieurs, n'ont pas signé cet accord. Ce qui montre que malgré l'urgence, les écoles n'en font pas encore une priorité, malheureusement, pour beaucoup. Si on se base sur la vie en école d'ingénieurs, l'écologie doit aussi se retrouver dans un autre aspect très important, la vie associative. Les associations événementielles ont pour la plupart un chargé dit DD, donc développement durable, pour essayer de rendre l'événement le plus respectueux de l'environnement possible, ce qui encourage une action collective et encourage les jeunes à prendre des mesures pour trouver des alternatives. Quelquefois, les actions peuvent être toutes bêtes, si je puis dire, comme utiliser des éco-cups en les récupérant et en les réutilisant pour éviter trop de déchets.
Donc effectivement, à l'UTC, la vie associative est très présente et on va prendre comme exemple une association qui s'appelle Compiègne en transition. C'est une association qui est engagée dans la transition écologique, citoyenne et solidaire. Donc elle n'est pas seulement étudiante, il y a actuellement 97 adhérents, dont 20 membres actifs, animateurs ou bénévoles. Donc elle a pour objectif de catalyser la transition écologique et sociale à Compiègne. L'association est composée de plusieurs équipes centrées autour de différents projets. Donc, je vais vous citer quelques projets qu'en ce moment, ils sont en train de lancer. Donc, tout d'abord, il y a Clean These Woods, qui est une promenade de nettoyage de forêt ou de bord de l'Oise, qui est lancée une fois par mois, le dimanche, dans la forêt de Compiègne ou au bord de l'Oise. Ensuite, il y a le Ciné-Club de la Transition écologique, qui est un événement mensuel ayant pour but de diffuser au plus grand nombre des films ou des documentaires ou des animations ou encore des courts-métrages sur les sujets environnementaux dans une salle de projection ou alors en plein air. Il y a encore un autre projet qui s'appelle Projet Zéro Déchet, qui consiste à proposer des astuces, des alternatives ou des expériences autour du zéro déchet, donc pour essayer de produire un minimum d'emballage plastique ou de carton. Ensuite, il y a la team SensiUTC qui organise des conférences avec des intervenants extérieurs participant à la transition environnementale, qui confectionne des affiches informatives sur la crise climatique. Et enfin, un dernier projet que je vais vous citer, c'est le recyclage des fournitures, qui organise des collectes de fournitures usagées qui seront ensuite envoyées au service Ubiquité. C'est une filière de recyclage chez BIC. Et donc l'argent récolté est ensuite envoyé à une autre association, comme par exemple l'association Refuge de Chats. Donc on se retrouve dans un instant, après une pause courte musicale.
On the oceans and upon our seas, fish full of mercury. Oh, oh, mercy, mercy me. Our things ain't what they used to be. Radiation underground and in the sky, animals and birds who live nearby are lives. Mercy, mercy me. All things and what they used to be. What about this overcrowded land? How much more we use from man? Can't you stand?
Vous êtes toujours sur Graphite. Nous vous proposons donc de continuer notre réflexion autour de l'écologie dans les écoles d'ingénieurs. On remarque que les étudiants et étudiantes s'engagent de plus en plus dans la lutte. Finalement, le changement viendrait pas forcément des écoles en premier, mais des étudiants eux-mêmes qui les poussent à évoluer.
En effet, il faudrait d'autant plus agir au début du processus. C'est pour ça qu'il faudrait d'abord investir le champ de l'éducation, transformer les programmes de façon à développer notre sens envers l'écologie. Dans la formation d'ingénieurs, il est donc important que l'école prenne un rôle d'éclaireur. L'ingénieur de demain disposera de tous les outils de réflexion pour répondre au réchauffement climatique. Ainsi, l'école ne doit pas seulement valoriser les notes, mais également les compétences transverses telles que le savoir-vivre. De nos jours, le système éducatif ne prend pas assez en compte les enjeux climatiques. De nos jours, l'économie nous pousse à consommer et produire toujours plus. Nous nous retrouvons dans une boucle sans fin qui est en lien avec la mondialisation, engendrant un esprit compétitif entre les pays. Les pays sont constamment dans l'amélioration constante de leurs produits, leurs machines, et poussent leurs recherches toujours plus loin. Il y a donc une course sans fin entre les pays qui s'est enclenchée. Or, nous devons valoriser la coopération entre les États pour atteindre nos buts. Face au réchauffement climatique, les écoles ne font que y répondre. Néanmoins, elles auraient dû l'anticiper. Ce sont les étudiants formés qui entrent dans les entreprises et qui changent les dynamiques des industries qui, eux, vont faire un changement. Vis-à-vis de l'inaction des écoles, il y a donc une prise de conscience de la jeunesse. En effet, de nombreuses rébellions dans les grandes écoles sont organisées. Par exemple, HEC a invité Total Energy, Shell et la Société Générale le jour du climat, le 23 mai. Or, ces entreprises ne sont pas forcément très très engagées environnementalement parlant. Les jeunes étudiants ont manifesté leur désaccord face à la présence de ces sociétés en organisant le premier festival du greenwashing. Ils ont donc dénoncé l'hypocrisie face au danger du réchauffement climatique de ces entreprises.
Ce ne sont pas seulement des mobilisations qui se font dans les écoles d'ingénieurs. De nombreuses protestations ont également eu lieu pour le climat. Elles avaient toutes été réalisées au même moment. Ce n'est pas une coïncidence. Toutes ces actions ont eu lieu en ce moment car la COP27 va bientôt commencer en Égypte. Des militantes écologistes ont jeté de la soupe sur les tournesols de Van Gogh exposés à la National Gallery de Londres et se sont ensuite collées au mur. Elles ont ensuite prononcé les phrases suivantes. Qu'est-ce qui a le plus de valeur, l'art ou la vie? Est-ce que cela vaut plus que la nourriture, plus que la justice? Êtes-vous plus concerné par la protection d'un tableau ou par la protection de notre planète et du peuple? La crise du coût de la vie fait partie de la crise du pétrole. Le carburant est inaccessible à des millions de familles gelées et affamées qui ne peuvent même plus se permettre de réchauffer une boîte de soupe. Ces militantes viennent du mouvement Just Stop Oil et demandent l'arrêt immédiat de tout nouveau projet pétrolier ou gazier. Les raisons de leur action est de lancer des conversations pour pouvoir poser les questions qui comptent. Elles veulent donc un maximum de bruit. Et effectivement, la vidéo de leur intervention a été visionnée plus de 7,9 millions de fois sur Internet. Les gouvernements du monde entier sont loin d'atteindre les objectifs en matière d'émissions. Sans qu'aucune voie crédible pour atteindre l'objectif climatique déclaré de 1,5 degré ne soit en place. Face à l'absence d'action gouvernementale, Matthew Humphrey déclare « Si vous êtes un outsider politique, il se peut que la seule chance que vous ayez de faire connaître votre problème politique au grand public soit de vous engager dans des formes de protestation et d'action directe. »
Ainsi, l'intégration de la sensibilisation à l'écologie dans les études supérieures est cruciale pour préparer les étudiants à relever des défis environnementaux contemporains. Voici quelques suggestions sur la façon dont cela pourrait être réalisé. Tout d'abord, nous pouvons parler d'intégration interdisciplinaire. Les problèmes environnementaux sont complexes et interconnectés. Les établissements d'enseignement supérieur devraient encourager l'approche interdisciplinaire en proposant des programmes d'études qui combinent des connaissances scientifiques, économiques, sociales et politiques pour aborder les enjeux écologiques de manière holistique. Ensuite, nous pouvons parler de projets de recherche écologique. Les études supérieures offrent une excellente opportunité pour les étudiants de s'engager dans des projets de recherche sur des problématiques écologiques. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent encourager et soutenir ces projets en mettant l'accent sur des domaines tels que la conservation de la biodiversité, l'énergie renouvelable, la gestion des ressources naturelles et tout autre sujet touchant l'écologie. Nous avons, par exemple, à Compiègne, des initiatives communautaires. Les étudiants peuvent être encouragés à participer à des initiatives communautaires axées sur l'écologie. Cela peut inclure des activités telles que des campagnes de sensibilisation, des projets de reboisement, des programmes de recyclage, des efforts de conservation, etc. Ces initiatives permettent aux étudiants de mettre en pratique leurs connaissances et de contribuer activement à la protection de l'environnement. Les programmes de stage et de bénévolat peuvent être axés dessus aussi. L'établissement d'enseignement supérieur peut établir des partenariats avec des organisations écologiques, des agences gouvernementales et des entreprises engagées dans des pratiques durables pour offrir des opportunités de stage et de bénévolat aux étudiants. Cela leur permettrait d'acquérir une expérience concrète dans le domaine de l'écologie et de comprendre les défis réels auxquels sont confrontées les organisations environnementales. La sensibilisation dans les programmes existants. Les programmes d'études existants dans différentes disciplines peuvent être modifiés pour inclure des modules ou des cours optionnels axés sur l'écologie et la durabilité. Par exemple, les cours d'ingénierie pourraient intégrer des éléments de conception durable. Les cours de gestion pourraient aborder la gestion environnementale des entreprises, etc. Les conférences et les événements peuvent être un point intéressant à développer. Les établissements d'enseignement supérieur peuvent organiser des conférences, des séminaires et des événements axés sur l'écologie où des experts et des chercheurs renommés peuvent partager leurs connaissances et leurs expériences. Cela permettrait aux étudiants d'élargir leurs perspectives et d'interagir avec des acteurs clés du domaine. En intégrant la sensibilisation à l'écologie dans les études supérieures de manière holistique, ces établissements-là peuvent contribuer à former une nouvelle génération de professionnels conscients des enjeux environnementaux et capable de proposer des solutions durables. On retrouve la suite de notre réflexion après un court interlude musical.
Like the water from our sink, they say it's not safe to drink. You gotta go and buy it at the store. Now we're told there's a hole in the ozone. Look what's washing on the beach. And Lord, I believe from the heavens to the sea, we're bringing Mother Nature to her knees. Let's leave some blue up above us. Let's leave some green on the ground. It's only ours to follow. Let's save some for tomorrow. Leave it and pass it on down. Well, there's a change taking place way on the mountain. Acid rain is falling on the leaves. And down in Brazil, the fires are burning still. How we gonna breathe without them trees? So let's leave some blue up above us. Let's leave some green on the ground. It's only ours to borrow. Let's save some for tomorrow. Leave it and pass it on down. Well, there's a place where I live called the Canyon, where Daddy taught me to swim. And that water is so pure, and I'm gonna make sure Daddy's grandkids can swim there like him. Now we all ought to feel just a little bit guilty when we look into the eyes of our kids. Cause brothers, it's a fact, if we take and don't put back, they'll have to pay for all we did. So let's leave some blue up above us. Let's leave
some green on the ground. It's only ash barlow, let's save some for tomorrow. Leave it and pass it on down. So let's leave some blue up above us. Let's leave some green on the ground. Well, it's only ash barlow, let's save some for tomorrow. Leave it and pass it on down. So let's leave some blue up above us. Let's leave some green on the ground. It's only ash to borrow. Let's save some for tomorrow. Leave it and pass it on down. So let's leave some blue up above us. Let's leave some green. It's only ours tomorrow. Let's save some for tomorrow. Leave it and pass it on down. Leave it and pass it on down.
De retour sur Graphite. Les filles, j'aurais une question à vous poser. Avez-vous déjà participé à ce genre d'exercice dans votre cursus universitaire, même s'il est court ?
Bah, du coup, moi, personnellement, j'ai pas fait grand-chose. J'ai juste fait une clean walk, mais effectivement, j'ai pas fait énormément de trucs.
Ouais, moi aussi, au lycée, j'ai participé à pas mal de clean walk parce que j'habite à côté d'une forêt. Du coup, il y avait... souvent des clean walk organisés pour essayer de nettoyer la forêt pour que ce soit plus agréable de se balader, de courir dedans. Mais sinon, c'est vrai que ça fait peu de temps que j'ai intégré l'UTC et j'ai pas fait de grosses actions en faveur de l'environnement pour l'instant, malheureusement. Je compte remédier à ça.
Moi, je fais partie de l'intégration. Donc l'intégration de l'UTC a tenu un stand au PIC. Donc le PIC, c'est un bar étudiant où il y a beaucoup d'élèves qui se regroupent. Et donc, pendant ce stand, on a demandé aux personnes de venir avec des idées et des propositions pour justement améliorer notre aspect développement durable pendant l'intégration. Donc, il y a plusieurs idées qui ont été proposées. Par exemple, pour les goodies, en général, il y a un pack avec des goodies où on met en général une bouteille en plastique, enfin une gourde, un t-shirt. Et donc, par exemple, on se posait la question, par exemple, est-ce qu'il est obligatoire que tous les intégrateurs, par exemple, ils aient une gourde avec écrit UTC dessus, ou alors est-ce qu'ils ne pourraient pas justement prendre une gourde chez eux ? Donc, il y a plusieurs idées comme ça qui ont été proposées. Il y a en effet la fresque du climat maintenant qui est obligatoire à tous les nouveaux. Donc, tous les nouveaux doivent se présenter à au moins... 4 séances de fresques de climat qui sont présentées pendant l'intégration, pendant les 2 semaines de l'intégration. Et nous cherchons encore d'autres idées à développer.
Moi, personnellement, en ce moment, je fais partie d'une association qui s'appelle Emboîte le plat, qui est affiliée à Compagnie de Transition. En gros, on essaie de sensibiliser par rapport aux déchets causés par la restauration. C'est-à-dire qu'on propose des boîtes consignées en verre. Alors, on est affilié à 4 commerces, je pense, un peu connus à Compiègne. Il y a Wookies, qui est juste en face du TC. Le Just Couscous, le Bistrot de l'Imprévu et l'Alchimie, qui est un coworking. Et du coup, on essaie de pousser les gens à arrêter de prendre des plats emportés dans les cartons, dans le plastique. Par exemple, dans les kebabs, il y a le polystyrène qui est super polluant. Et on essaie, du coup, de sensibiliser par rapport à ça. Et voilà, mon expérience, elle est plutôt sympa. Ça s'est plutôt basé à Compiègne, mais par exemple, aujourd'hui, on était à Joux. On essaie de faire des stands un peu partout. J'ai fait aussi partie de l'IF, l'Imaginarium Festival. Et cette année, comme toutes les années, mais du coup, cette année, c'était un peu plus poussé. Il y a la team DD, développement durable. Il y a beaucoup de team DD comme ça dans les grandes assos à l'UTC. Et on a calculé notre rapport, nos émissions de CO2. Et on a essayé aussi de faire une démarche avec... moi, par exemple, dans la prog, on a essayé de de favoriser l'alimentation en vrac, etc. Et on a pu calculer à la fin notre rendement de CO2. On est à 15 kilos par personne, ce qui est incroyable. Par exemple, comme dans les festivals tels que We Love Green, etc., on a fait la moitié, voire le tiers. Donc c'était intéressant à voir.
De plus, je voulais rajouter par rapport à l'IF, il y avait aussi un village associatif qui avait invité plusieurs associations humanitaires et écologiques, dont par exemple Greenpeace. Donc il y avait plusieurs intervenants de Greenpeace qui étaient là à présenter les différents projets qu'ils avaient en ce moment. Et donc c'était hyper intéressant pendant les deux jours de festival, de l'ouverture du village, donc de 10h à 16h, on pouvait aller au village et parler avec ces intervenants.
Moi-même dans le village, j'avais SMDO, qui œuvre beaucoup avec l'UTC, qui a fait un stand par rapport au tri de déchets, qui était super intéressant parce que moi, par exemple, qui viens d'un pays qui n'est pas vraiment sensibilisé au tri, tout ça, c'était super intéressant de voir comment est-ce que je peux inclure ça dans mes pratiques. Même la ville de Compiègne, elle a mis des stands par rapport aux déchets qui sont produits par la fast fashion, etc., et comment recycler nos habits en des choses de tous les jours, des sous-plats, des sous-verres, etc. Donc voilà.
Okay.
Et les filles, du coup, est-ce que vous comptez faire des choses comme ça dans le futur ? Est-ce que ça vous intéresse ?
Bah ouais, franchement, là, de tout ce que vous dites, c'est super intéressant. J'ai hâte de découvrir aussi un peu plus la vie associative et du coup cet aspect développement durable qu'on y trouve. Vraiment, ça a l'air super intéressant. Et puis aussi, je pense que c'est un peu une fierté de pouvoir se dire... C'est possible de faire des grands projets en respectant le plus possible l'environnement.
Ouais, bah j'avoue que moi aussi ça m'intéresserait bien de plus m'investir. Après, voilà, ça fait un an que je suis à l'UTC, donc j'ai pas encore trop pu voir toutes les assos, enfin quelle association vraiment me donner à fond dedans. Mais ouais, je pense que ça peut être super intéressant. Enfin, déjà rien que pour son cursus et même après de se dire ah bah pendant mon cursus d'ingénieur j'ai fait tel ou tel truc et je pense que ça peut être vachement même valorisant pour soi-même.
Et aussi, à part cet aspect associatif, on espère aussi le retrouver dans les cours. Ça peut s'intégrer. Et pourquoi pas baser nos carrières futures dessus.
Oui, c'est ça, parce qu'au final, dans les cours, il y a juste IS00 qui est obligatoire. Il n'y a pas d'autres matières obligatoires par rapport à ça, ce que je trouve déjà un petit peu dommage, moi. Mais ouais, ça pourrait être très intéressant de plus intégrer cette partie-là dans le programme.
Donc, on revient au sujet de notre podcast. La sensibilisation à l'écologie dans les écoles d'ingénieurs revêt une importance capitale pour encourager l'innovation durable, en exposant les étudiants à des concepts clés tels que l'éco-conception, l'énergie renouvelable et la gestion des déchets. Nous pouvons stimuler leur créativité et les inciter à trouver des solutions novatrices qui répondent aux défis environnementaux actuels. Cette sensibilisation favorise ainsi la recherche et le développement de technologies plus respectueuses de l'environnement, ce qui est essentiel pour une transition réussie vers une société durable. L'éducation joue un rôle majeur dans la conduite du changement. En sensibilisant les futurs ingénieurs aux enjeux environnementaux, nous pouvons les encourager à adopter des pratiques durables et intégrer des considérations écologiques dans leur travail quotidien. La prise de conscience de l'écologie leur permet de comprendre les impacts de leurs décisions techniques sur l'environnement et les pousse à rechercher des alternatives plus respectueuses de la planète. En outre, étant donné que les ingénieurs occupent une position clé dans la conception et la création de solutions technologiques qui façonnent le monde, notre monde, ils ont une responsabilité particulière dans le développement de nouvelles infrastructures, l'innovation technologique et la gestion des ressources. Par conséquent, ils ont une influence considérable sur l'empreinte écologique de notre société. En intégrant des programmes de sensibilisation à l'écologie dans les écoles d'ingénieurs, nous pouvons former une génération d'ingénieurs conscients de leur impact sur l'environnement et engagés dans la recherche de solutions durables. En conclusion, les écoles d'ingé jouent un rôle clé dans la transition vers une vue plus sobre et respectueuse de l'environnement. La sensibilisation à l'écologie permet d'inspirer des étudiants et de les doter des connaissances et des compétences nécessaires pour concevoir et mettre en œuvre des solutions technologiques qui minimisent les impacts sur l'environnement, en formant des ingénieurs conscients de l'importance de l'écologie. Nous ouvrons donc la voie à une société plus durable et résiliente face aux défis environnementaux. Je passe donc la parole à Alizée.
Donc face à la transition écologique, nous devons repenser la place des enjeux écologiques dans la formation d'ingénieurs. Dans notre système capitaliste, l'ingénierie rend difficile un alignement de ces valeurs. Certains ne trouvent pas de job réellement utile à impact positif. La nouvelle génération d'ingénieurs est animée de bonnes intentions, celle de changer le monde. Par conséquent, ils se retrouvent face à un dilemme. Ne voulant pas perdre la vue de vue leur finalité, soit la nécessité de faire tourner la boîte, et d'un autre côté, de travailler tout en étant aligné avec leurs valeurs et principes. Pour sortir du monde thermofossile, l'ingénieur fait des efforts dans l'efficacité, dans les innovations, afin de produire avec moins d'émissions, avec moins de matériaux, recycler davantage, imaginer des produits moins inutilement sophistiqués. Des recherches par les ingénieurs sont faites, par exemple dans les avions, pour les rendre plus légers, plus simples, avec moins d'électronique inutile et en réduisant leur consommation énergétique. Néanmoins, toutes les informations d'efficacité sont rattrapées et souvent effacées, noyées dans l'explosion de la demande. Si bien que la courbe du trafic aérien, par exemple, est exponentielle, atteignant les 4500 millions de passagers transportés en 2019, avant la crise du Covid-19. Or, il faudrait donc plutôt totalement bifurquer, socialement et collectivement parlant. Pour que cela se produise, nous devons passer d'une économie capitaliste à une économie humano-centrée, privilégiant les domaines comme la santé, le bien-être, l'éducation, le loisir, le logement de qualité, etc. Ceci entraînerait des changements de nos modes de vie. Nous consommerons certes moins, mais mieux, pour ainsi nous amener vers des voies élargies et non pas rétrécies. Dans les bureaux d'études, les ingénieurs mettent en œuvre des solutions nouvelles et inventives. Nous pouvons prendre par exemple l'exemple de Arnaud Créteau, un boulanger qui fabrique du pain et fait de la torréfaction avec une énergie 100% gratuite et renouvelable, le solaire. Son métier fait partie de ceux qui sont durement touchés par la crise énergétique et qui fait grimper le prix du gaz et de l'électricité. Son but est de fabriquer et de livrer son pain en étant le moins énergivore possible. C'est pourquoi il utilise ce four solaire, appelé concentrateur. C'est un four à bois et lorsqu'il n'y a pas de soleil, il utilise le four à bois. De plus, il livre au point de vente avec un vélo électrique. Pour étendre ce concept d'artisanal solaire, Arnaud Créteau dispense des formations pour les professionnels et les particuliers. Lors de son interview brute, il cite, deux points, « Si on n'accepte pas de repenser nos organisations, de repenser nos schémas culturels, nos modes énergétiques, nos représentations, nos savoir-faire, jamais on ne peut réussir à travailler avec un four solaire et à se questionner sur ses pratiques pour savoir s'y adapter mieux. » Nous passons maintenant à la dernière rubrique de cette émission, après un peu de musique. On vous propose maintenant d'écouter une musique de Marvin Juno qui s'intitule « On refait le monde ». L'introduction de la chanson est un discours samplé sur un reportage de la télévision suisse des années 60 ou 70 où un jeune garçon s'inquiète des dérivés de la société. Marvin Juno entend soulever une prise de conscience vis-à-vis à la catastrophe climatique de nos jours.
Non, tout ce qui me fait peur, c'est l'avenir, parce que j'ai peur de la guerre, premièrement, parce que je sais pas, peut-être que demain la Terre pourrait exploser avec quelques bombes à H, trucs comme ça. Et puis du mariage aussi, j'ai un peu peur. Genre, moi, surtout, moi, c'est que la nature ne disparaisse pas, n'extermine pas encore tout, encore si fuck, qu'on arrête de tuer comme ça pour manger de la viande. Je trouve qu'on devrait s'en passer un peu. À la place plutôt de s'empiffrer sans arrêt.
casquette baissée et capuche noire pour planquer nos écouteurs blancs. Ouais, c'est ça nos super pouvoirs. Y'a toujours un Y qui pend. C'est un tout petit accessoire qui vient protéger nos tympans. On a plus l'âge pour vos histoires. Qu'avez-vous fait de vos enfants? Vous n'avez eu que peu d'égards à ce qui plus tard nous attend. Vous avez aussi voulu croire qu'il y aurait tout et c'est tout le temps. Comment voulez-vous qu'on répare? Vous avez tout fait pour l'argent. Désolé de vous décevoir et pourrir votre testament. On se transforme quand vient le soir. On a des costumes transparents. On sait que vous pouvez pas nous voir. On peut aussi en dire autant. On se donne rancard quelque part. Quand t'es planqué dans ton salon, on se retrouve pas par hasard. On touche pas ton poste à la con. On prépare le nouveau départ. On a de l'imagination. Vos jours s'achèvent quand la nuit tombe. On la relève. On refait le monde, 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 on refait le monde. Elles sont si serrées nos mâchoires qu'on pourrait s'en péter les dents. Et si on a le regard noir, c'est qu'on voyait la vie autrement. Y croire encore est tout un art qui ne demande pas de talent. Alors on prend des cours du soir, le cul pas posé sur nos bancs. On étudie et on compare là où on merdait nos parents. Si le monde est un laboratoire, fallait le prendre avec des gants. Vos jours s'achèvent quand la nuit tombe, on la relève. On refait le monde. On refait le monde, 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 on refait le monde.
De retour sur Graphite, toujours autour de notre même problématique, comment l'aspect écologique est-il ancré dans les écoles d'ingénieurs? Nous allons donc passer à une autre rubrique, la géo-ingénierie. Face à cette crise climatique, il est nécessaire de trouver des solutions. Une autre solution envisagée est donc la géo-ingénierie. En effet, repenser tout un modèle économique paraît pour certains très compliqué. C'est pour cela que l'idée de la géo-ingénierie est tout de même envisagée. Ainsi, Anaë va nous parler plus en détail de ce sujet.
Oui, donc en effet, je vais parler de la géo-ingénierie. Donc, concernant cette urgence climatique, les écoles d'ingénieurs ont une place au premier plan, car elles visent à créer les ingénieurs de demain, c'est-à-dire les acteurs en première ligne face à cette crise climatique. Une des solutions possibles face à cette crise climatique est la géo-ingénierie. Mais tout d'abord, qu'est-ce que la géo-ingénierie ? La géo-ingénierie désigne un ensemble de techniques et d'approches visant à manipuler intentionnellement le climat de la Terre afin de lutter contre les changements climatiques ou d'en atténuer les effets. Tout d'abord, la géo-ingénierie n'est pas un concept qui date d'hier. En effet, la volonté d'agir à grande échelle existe depuis la découverte du réchauffement climatique. Un rapport en date de 1965 partage la première grande suggestion de géo-ingénierie, celle d'éclaircir la surface des océans au lieu de réduire l'usage des énergies fossiles. Dans leur dernier rapport publié en avril 2022, les experts du GIEC, donc groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, sont d'avis que la géo-ingénierie pourrait être une grande aide pour limiter le réchauffement climatique. Leur seule exigence étant la réalisation au préalable d'une étude de risque. Ainsi, face à cette possibilité, la Climate Overshoot Commission, donc la commission du dépassement climatique, a été créé en 2022 afin de gérer l'accélération du réchauffement climatique en prenant toutes les stratégies en considération. Nous pouvons distinguer deux principales solutions au niveau de la géo-ingénierie. Le captage artificiel du carbone et la géo-ingénierie solaire. Donc premièrement, la géo-ingénierie qui vise à capturer le CO2 a pour but de réduire la quantité de gaz à effet de serre présente dans l'atmosphère. Pour cela, il y aurait donc plusieurs techniques. D'abord, en construisant des technologies de captage, de stockage et de valorisation du CO2. Ce CO2 capté serait ainsi soit emprisonné dans les sols, entre autres dans les aquifères salins, donc il s'agit de la poche sédimentaire d'eau salée, ou dans les anciens gisements d'hydrocarbures. Il y aurait 12 000 milliards de tonnes de CO2 dont il serait possible de stocker en sous-sol. Ou bien ce CO2 capté serait réutilisé dans différentes industries, donc que ce soit pour les boissons gazeuses, le plastique, les médicaments, l'engrais azoté, etc. Ensuite, la géo-ingénierie pourrait aussi chercher à contrôler ou influencer le cycle du carbone, notamment via l'amplification des capacités naturelles des êtres vivants à capter le CO2 via la photosynthèse. De plus, une grande partie de la recherche en génie génétique s'intéresse aux variétés végétales et à leur capacité de captation via le processus de photosynthèse. Ainsi, la modification génétique de certaines variétés de cultures, comme le sorgho, le riz ou le blé, est actuellement à l'étude. Et secondement, la géo-ingénierie envisage aussi de lutter contre le réchauffement climatique en réduisant la quantité de rayonnement solaire atteignant la Terre. Donc il s'agit de la géo-ingénierie solaire. L'objectif consisterait à contrôler le rayonnement solaire en bloquant les rayons du soleil directement dans l'espace, afin qu'il n'atteigne pas la Terre. Pour cela, plusieurs méthodes sont envisagées, telles que l'amélioration des capacités réfléchissantes des surfaces claires, donc ce qu'on appelle l'albédo. Frappées par des rayons du soleil, les surfaces blanches renvoient mieux les radiations et permettent à une surface de garder sa fraîcheur. En recouvrant certaines surfaces naturelles ou artificielles grâce à des filtres, on augmenterait l'albédo. De plus, pour augmenter l'albédo, aux États-Unis, des chercheurs envisagent d'envoyer sur orbite des miroirs réfléchissants ou un satellite géant pour intercepter une partie des rayons du soleil. Ainsi, nous pouvons donc nous poser cette question. La géo-ingénierie est-elle efficace ? Ses effets sont encore très difficiles à évaluer et à comprendre, car les écosystèmes sont des réalités complexes au sein desquelles interagissent de nombreux facteurs. Faire varier l'un de ces facteurs via la géo-ingénierie peut avoir des effets imprévus. Il est donc nécessaire de traiter la problématique de la crise écologique de façon systémique. De cette manière, la géo-ingénierie présente des avantages et des inconvénients. Je vais donc vous en lister quelques-uns. La géo-ingénierie peut être un recours si le réchauffement climatique devient incontrôlable. De plus, elle consiste dans la recherche de solutions à échelle mondiale et non limitée sur un plan géographique. Néanmoins, nous pouvons souligner le coût exorbitant de la mise en œuvre des projets de géo-ingénierie, mais aussi l'impossibilité de mesurer les effets secondaires potentiels de certains projets sur la biodiversité et la santé humaine. Ainsi, la géo-ingénierie soulève des préoccupations au niveau des effets secondaires et des dommages collatéraux qu'elle pourrait avoir, de l'incertitude scientifique et de ses risques, et des questions au niveau de sa gouvernance. En conclusion, la géo-ingénierie représente un domaine d'études et de recherche qui suscite un intérêt croissant dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques. Mais de par ses incertitudes, ses controverses et ses risques potentiels, la géo-ingénierie ne fait pas l'unanimité et reste, pour le moment, seulement une solution à envisager contre la crise climatique que nous vivons aujourd'hui. Résoudre ces incertitudes pourrait être un des enjeux de l'ingénieur de demain.
Donc en effet, comme Anaï nous l'a montré, la transition écologique doit se faire de la part des ingénieurs, mais elle doit également se faire de la part des politiques. Donc je vais vous citer un exemple où la politique s'est retrouvée face à une inaction. Donc il y a un plan de lutte contre le réchauffement climatique qui a été écrit par le Conseil économique, social et environnemental, donc CESE, en 2020. Donc ils ont écrit en total 146 propositions qui ont été d'abord retenues. Elles ont été revues par le président Macron, mais ensuite elles ont été heurtées lors d'un référendum au profit de l'environnement contre la règle des trois pas qui rattrape ceux qui défendent des mesures ambitieuses pour le climat. Donc la règle des trois pas, c'est pas ici, pas comme ça et pas maintenant. Donc à l'heure d'aujourd'hui, la transition est toujours au stade de la théorisation et de la méditation. Donc je voulais vous parler également d'un film. Je ne sais pas si vous avez déjà vu le film Don't Look Up ou Déni cosmique en français.
Moi, franchement, je ne l'ai pas regardé, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Je sais que, par exemple, ma sœur, elle a vu au cinéma. Et franchement, ça a posé un grand débat chez nous sur tout ce qui est le pouvoir du gouvernement et des gouvernements sur l'écologie. Et finalement... est-ce que nous, on est puissants sur notre échelle ou c'est vraiment les grands décideurs qui décident finalement? Et je ne sais pas ce que vous en pensez, si vous l'avez vu.
Ouais, bah moi j'ai vu le film et honnêtement, je l'ai vraiment bien aimé. Bah, déjà parce que c'est un sujet que j'apprécie fortement. Puis en plus, il y avait des acteurs plutôt sympas dans ce film. Et ouais, surtout que c'est un sujet très actuel, donc qui nous touche tous, donc à savoir les dangers les dangers d'un acte immédiat. Donc pour nous, ça serait alors la crise écologique d'aujourd'hui. Donc je pense oui, c'est un film qui nous touche tous. On en comprend les enjeux, et c'est là aussi où on peut un peu comprendre mieux pourquoi il y a une certaine inaction aujourd'hui dans le monde. Parce que concernant la crise écologique, ça fait plus de 30 ans qu'on était tous au courant de ce qui allait se passer, mais rien n'a été fait pour l'arrêter. Donc ça reprend un peu ce sujet-là dans ce film. Donc, parce que dans ce film, en gros, l'histoire, c'est que des scientifiques avertissent qu'il y a une météorite qui va s'écraser sur la Terre et personne ne les croit. Donc ça reprend un peu cette idée d'inaction, que ce soit politique... écologique actuelle, qu'on ne fait pas forcément confiance aux scientifiques de nos jours.
Et surtout, le projet en lui-même, il est super intéressant parce qu'il a été produit par Leonardo DiCaprio et il a fait partie de la production, quoi. Et surtout que tous les bénéfices ont été reversés à des assos. Il n'avait accepté de faire un film, de revenir au cinéma, que si c'est pour parler de l'écologie, parce que ça le tient beaucoup à cœur. Et il a réussi, tu vas en parler tout à l'heure, Alizé, à réunir une tête d'affiche incroyable pour pousser les gens à venir regarder et les sensibiliser à ça. Parce que quand tu entends un peu les acteurs et tout, tu es un peu obligé d'aller regarder. Et finalement, les gens, ils sortent avec vraiment un débat et des enjeux qu'ils doivent regarder dans leur vie de tous les jours.
En effet, c'est une comédie dramatique américaine, écrite et réalisée par Adam McKay, qui est sortie en 2021. Et donc, sa diffusion, elle est mondiale. Et maintenant, vous pouvez la visualiser sur la plateforme Netflix. Donc, en effet, comme Aïfa a dit, il y a Leonardo DiCaprio qui joue. Il y a aussi Jennifer Lawrence, qui interprète donc, les deux personnages centraux du film. Mais ces deux... ces deux acteurs sont également entourés de Meryl Streep, Jonah Hill, Rob Morgan, Kate Blanchett, etc. Donc c'est un film inspiré par le thème de l'actualité actuelle de la crise climatique, comme nous a dit Anaé. dont personne ne se soucie vraiment, malgré le consensus scientifique. Donc le film, il évoque la chute prochaine d'une grande comète, donc, qui représente bien sûr la crise climatique de nos jours, qui va complètement ravager la Terre et tuer tous les habitants. Et la difficulté que rencontrent les scientifiques qui l'ont découverte pour prédire le monde face à la désinformation, au déni et au sarcasme du monde médiatique et politique, comme du grand public, ainsi qu'à la cupidité et à l'inaction de la présidente des États-Unis sous la coupe du puissant créateur d'une grande entreprise technologique. Donc c'est un film qui a rencontré un succès mondial sur Netflix. En 28 journées d'exploitation, il a totalisé 360 millions d'heures de streaming, ce qui en fait le film le plus vu en ce moment.
Et du coup, est-ce que vous vous sentez influencé en règle générale par ce que vous entendez, que ce soit des discours, par des gens que vous admirez ou bah, du coup des films qui parlent du réchauffement climatique? Est-ce que ça a un impact?
Bah, déjà, j'ai l'impression que quand c'est une personne qui est connue ou qu'on aime bien, ou qu'on suit, quand elle a ce genre de discours, on se trouve... toucher un peu plus, et on a l'impression que c'est plus réel, parce que je me dis finalement si eux ils sont des célébrités, ils sont touchés comme nous, et je vois pas pourquoi nous on devrait pas s'intéresser à ça aussi. Je sais pas Anaïs, ce que t'en penses.
Ouais, bah c'est sûr, forcément si c'est une célébrité qui parle, ça a beaucoup plus d'impact que si nous à notre échelle on commence à en parler. Forcément plus de gens les suivent, les admirent, donc vont se dire ah bah si lui il pense comme ça, il doit avoir raison, ça doit être le cas. Donc effectivement c'est sûr ça a beaucoup plus d'impact, surtout qu'en plus quand on sait que pour le coup Leonardo DiCaprio lui il est très investi dans l'écologie, donc forcément ça impacte plus le monde qui nous entoure.
Et on va dire que c'est l'art de parler de l'écologie en rendant ça intéressant, parce que du coup on parle quand même de plus en plus d'écologie dans les écoles d'ingénieurs du coup et autre part, et quelquefois c'est vrai que le sujet peut paraître un peu comment dire redondant, et du coup on va dire c'est l'art, et je pense que c'est un des grands enjeux de l'enseignement sur l'écologie que notamment les professeurs du coup essayent de résoudre, c'est intéresser les jeunes à ce sujet. Et du coup je pense qu'effectivement proposer des films comme Don't Look Up permet vraiment d'intéresser les gens sans qu'ils se disent oh, encore un truc sur l'écologie.
Et j'ai l'impression que ça donne aussi une certaine crédibilité et une dimension, enfin les films sur Netflix c'est surtout des films on va dire de fantasy, tout ça c'est des scénarios un peu pas réaliste, et là ça donne une dimension réelle, c'est ce qu'on vit maintenant, et surtout que enfin ça fait un peu flipper quoi quand enfin je sais qu'au début ils disent dans les conférences de presse par exemple ils disent que c'est inspiré de faits réels, ça fait un peu flipper, et voilà je sais pas ce que vous en pensez.
Ouais, surtout qu'en plus bah c'est à la fin du film ils sont obligés de quitter la Terre et de
spoiler.
Désolée. Et du coup de refaire une civilisation dans une autre planète, donc bah aussi ça, si c'est inspiré de faits réels, tu te dis bah peut-être en finalité nous aussi on en arrivera à ça, donc oui c'est sûr, je pense que ça peut faire réfléchir un peu tout le monde.
Et donc maintenant on va laisser place à une petite pause musicale avec
la dernière, c'est
Good Day
de c'est la fin.
En effet c'est la dernière musique.
I worry that I wasted the best and be on your baby. just urgent. Trying to make some simple change. Got me a war in my mind. Gotta let go of Wayne. Can't keep what's holding me. Choose the right, or it will pick up and follow me. All the while, I wave my arm, I feel it a smile. I still wanna try, still believe in good days. Always inside, good that they're in my mind. Hold me on my fears, my dilemma. Faces, I disappear if you let me. Feeling like Jericho, feeling like Joe when he lost his shit. Gotta hold my own, my cross to bear a long night. Ooh, way to dip, way to kill the food. No, you like that shit, can't groove it, baby, baby. Heavy on my empty mind, shit. I gotta keep from losing the rest of me. Still worried that I wasted the best of me on you, babe. It's urgent. Tryna make some simple change. Got me a war in my mind. Gotta let go of Wayne. Can't keep what's holding me. Choose the right, but it will pick up and find me. Trying to free my mind before the end of the world. I don't miss no ex, I don't miss no text. I choose not to respond. I don't regret, just pretend shit never happened. Half of us laying waste of our youth. It's in the present. Half of us chasing fountains of youth. And it's in the present now.
Et voilà, l'émission touche à sa fin. On espère que le sujet et nos réflexions dessus vous auront autant intéressé que nous. Et on compte sur vous maintenant pour vous engager, tout comme nous, dans des projets, que ce soit individuels ou collectifs, que ce soit dans votre vie de tous les jours ou dans votre école, au sein de votre travail. Et vous écoutez Graphite. Bonne journée.